Né au début du XVIIIe siècle, David Garrick était le fils de huguenots français qui avaient immigré en Grande-Bretagne. Considéré comme l'un des plus grands acteurs de théâtre de tous les temps, il raconte qu'un jour, alors qu'il marchait dans Londres, il entendit un prédicateur qui, à un coin de rue, prêchait la bonne parole. Il s'approcha par curiosité, mais fasciné par le discours, il se retrouva devant cet homme et fut surpris de constater qu'il avait les larmes aux yeux. Puis, de la foule qui écoutait, une vieille femme, toute fripée, pointa son doigt vers le prédicateur et dit « Monsieur, je vous ai suivi partout depuis ce matin, 7 heures, et je vous ai écouté prêcher 5 fois. Et chaque fois j'ai été éclaboussé de vos larmes. Pourquoi donc pleurez-vous ?» Ce prédicateur s'appelait George Whitefield. Il louchait, était connu pour ses sermons percutants. Mais à cette époque, il faisait aussi la risée de la haute société et des hommes d'église qui aimaient le tourner en dérision. David Garrick raconte « J'ai écouté ce que disait George Whitefield et j'ai entendu et vu sa passion et sa sincérité. J'ai bien compris qu'il disait que sans une foi personnelle en Jésus-Christ, les hommes meurent dans leurs péchés pour l'éternité. J'ai continué à l'écouter jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à ajouter. » Alors, il a étendu ses 2 gros bras et a dit « Oh !» Il pouvait casser un auditoire avec ce simple mot. Quand George Whitefield disait « Oh !», les gens baissaient la tête en signe de contrition et se courbaient comme des épis de maïs sous un vent de tempête. Garrick a ajouté « Je donnerais une main pleine d'écus d'or si je pouvais dire « Oh !» comme George Whitefield, car je serais alors le plus grand acteur que le monde ait jamais connu. » Fin de citation. Peut-être, mais la différence est que George Whitefield était sincère. Ce n'était pas un comédien qui jouait un rôle, il parlait du fond du cœur. Le prophète Jérémie était de cette trempe. C'est lui qui a écrit le petit livre qui s'appelle « Lamentation ». Ce titre veut tout dire. Il y a des gens tristes et puis il y en a qui éprouvent une douleur profondément et intensément vive. De ce nombre fait partie Jérémie. Preuve en est que son nom est à la racine du mot « Jérémiade ». Le titre hébreu du livre des Lamentations est le premier mot du texte, un mot qui exprime la surprise douloureuse et la plainte, et qu'on pourrait traduire par « comment » ou « hélas ». Dans la Septante, l'ancienne version grecque, ce livre s'appelle « Chant funèbre » et dans la Vulgate, la version latine, c'est « Lamentationes » d'où vient le titre français. Ce poème est d'une tristesse infinie car il exprime la plainte douloureuse d'une âme en peine et d'un cœur brisé qui pleure sur les ruines de Jérusalem. Pourtant, quand Jérémie a commencé son ministère, Josias était roi de Juda et sous son règne eut lieu un réveil spirituel qui toucha bon nombre de gens, mais qui s'éteignit aussitôt après sa mort tragique et stupide dans un combat qu'il n'aurait jamais dû livrer. Jérémie a aussi prophétisé sous les 4 rois suivants, tous des teignes. Il essaya en vain d'enrayer la descente de Juda vers le jugement de Dieu et fut le témoin impuissant de la destruction de Jérusalem et du temple de l'Éternel. Jérémie n'était pas une sorte d'Attila le Hun. Il avait le cœur tendre d'une mère vis-à-vis de son peuple, et pourtant, il prononça une succession de menaces particulièrement virulentes à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il n'annonçait pas le châtiment de Dieu et la fin du royaume de Juda de gaieté de cœur, mais avec des larmes et par obligation, parce qu'il en avait reçu la charge de l'Éternel. Cependant, ce prophète aimait Dieu et sa parole. Il dit lui-même, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. » Jérémie n'était pas seulement prophète de l'Éternel, mais aussi un vrai patriote. Dans les Lamentations, on constate que celui qui aime véritablement sa patrie aime Dieu par-dessus tout et par conséquent aime son peuple pour Dieu. Le genre littéraire des Lamentations se retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Dans certains psaumes, dans la complainte funèbre composée par David sur le roi Saül et son fils Jonathan tués au combat. Et encore, dans celle composée par Jérémie pour les funérailles du bon roi Josias. Ce poème comprend 5 complaintes, une par chapitre. Elles ont pour sujet la ruine de Jérusalem et la destruction du peuple de Dieu par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Chacun des chapitres se compose de 22 strophes, le nombre des lettres de l'alphabet hébreu. Et chaque strophe commence par une lettre différente placée d'après son rang alphabétique. Les 4 premiers chapitres suivent une métrique rythmique, rigoureuse et complexe qui ne peut pas être rendue dans une traduction. Ces rythmes alphabétiques peuvent paraître artificiels dans un poème destiné à exprimer une profonde détresse. Mais ils avaient 2 buts pratiques. D'une part, maîtriser l'expression des sentiments et ainsi éviter des débordements émotionnels. Et d'autre part, ils constituaient un moyen mnémotechnique qui permettait à ceux qui le désiraient de graver ces paroles dans leur mémoire et dans leur cœur. Cette composition hautement travaillée a certainement été réalisé par Jérémie après un temps de recul par rapport aux événements qui l'ont tant fait souffrir. Il a dû rédiger les Lamentations pendant son séjour en Égypte et peu avant sa mort. Comme les psaumes, ces complaintes sont des prières inspirées qui nous apprennent comment gérer la souffrance. En effet, Dieu accueille en toutes circonstances les doléances de ceux qui croient en lui, même lorsque leur souffrance est un châtiment mérité, car comme le dit Jérémie dans ce livre, « Ce n'est pas de bon cœur que l'Éternel humilie et afflige les êtres humains. » Ce prophète ne se contente cependant pas de se plaindre. Il analyse les causes du malheur de son peuple, reconnaît ses fautes et le caractère juste du jugement divin. La détresse qu'il décrit apparaît d'ailleurs comme l'accomplissement des malédictions prévues par la loi de Moïse en cas de désobéissance. Jérémie souligne aussi sans ambiguïté que c'est l'Éternel qui a suscité ces malheurs, même s'il a utilisé pour cela les Babyloniens. En même temps, le prophète se tourne vers Dieu car il demeure son recours et c'est lui qui tient la destinée de tous les peuples entre ses mains. Alors qu'il touche au fond de l'abîme du désespoir, c'est sa foi qui lui permet de remonter la pente. Jérémie trouve ses raisons d'espérer dans le caractère de Dieu, sa bonté, sa fidélité et son inépuisable miséricorde. Mais la démarche du prophète est ardue et ses victoires ne sont pas acquises une fois pour toutes puisque le voilà à nouveau qui pleure et se plaint l'instant d'après. Jérémie doit discipliner ses pensées et se rappeler sans cesse les délivrances passées afin de reprendre espoir. Dans ce livre, l'espérance n'est pas une gymnastique de l'esprit pour fuir une réalité déprimante, mais l'expression de la foi qui prend appui sur Dieu tout en demeurant lucide sur le présent désastreux. Jérémie doit donc lutter et lutter encore dans un combat contre lui-même, afin de gagner une bataille après l'autre. La forme poétique contraignante et très élaborée qu'il a adoptée pour épancher son cœur et dire sa douleur poignante montre sa volonté de ne pas se laisser aller au désespoir. Jérémie était très humain et réaliste. Il nous montre qu'il n'y a pas de consolation facile. La foi ne permet pas d'échapper à la souffrance, mais seulement de l'assumer. Jérémie a transformé le grand deuil national en une prière qui devient la préparation salutaire du rétablissement d'Israël. Avec Dieu, on ne pleure pas seulement pour pleurer, mais pour se relever. Jérémie nous rappelle que presque 6 siècles plus tard, Jésus aussi a pleuré de douleur sur Jérusalem. Il s'est lamenté sur la ville sainte en annonçant sa ruine prochaine. Mais par sa mort sur la croix, il a aussi apporté le salut à tous les hommes. Que toutes nos peines deviennent fécondes, comme celles de Jérémie et du Christ. Le verset central du livre des Lamentations explique la raison de la ruine de Jérusalem. Je le lis. « Mais l'Éternel est juste, car moi, Jérusalem, j'ai été rebelle à ses commandements. Écoutez, je vous prie, vous, tous les peuples, et voyez ma douleur, mes jeunes filles. » Mes jeunes gens sont partis en captivité. Je commence maintenant à lire ce livre. Comme elle reste solitaire, la cité qui naguère était si populeuse. Elle est comme une veuve. Elle qui était importante au milieu des nations, princesse des provinces, elle est astreinte à la corvée. Tout au long de la nuit, elle pleure et ses larmes ruissellent sur ses joues. De tous ceux qui l'aimaient, aucun ne la console. Tous ses compagnons l'ont trahie et ils sont devenus ses ennemis. Versets 1 et 2. Jérusalem personnifiée est représentée comme une princesse devenue veuve et pauvre au point où elle est obligée d'accomplir les tâches les plus pénibles. Elle a adopté la position assise, l'attitude du découragement et du deuil. Elle est abandonnée de tous car même ses anciens alliés sont devenus ses ennemis. Je continue plus loin en compressant. Ses ennemis triomphent, ses adversaires sont heureux, car l'Éternel l'a affligée pour ses nombreux péchés. Ses petits-enfants sont partis dans la captivité, poussés par l'oppresseur. Voici, Jérusalem a gravement péché, c'est pourquoi elle est devenue comme un déchet. Tous ceux qui l'honoraient maintenant la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même en gémit et se détourne. Sa souillure apparaît sur les pans de sa robe. Verset 5 à 9. Jérémie nous peint des tableaux très crus et il n'a pas peur d'utiliser des mots particulièrement choquants. Celui pour « déchet » qu'il répète encore plus loin décrit la période menstruelle de la femme qui, sous la loi, la rendait rituellement impure. Jérusalem est aussi comparée à une femme dévêtue qui a honte de sa nudité et quand elle est habillée, on voit sa souillure qui tache ses vêtements. Selon l'histoire, ce sont les Babyloniens qui ont détruit Juda, mais en réalité, il n'était qu'un instrument entre les mains de l'Éternel qui, dans sa colère, fut le véritable auteur de cette tragédie sans pareil. La raison de ce châtiment fut la rébellion du peuple élu, son péché incessant contre Dieu. Je continue le texte plus loin en compressant. N'êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez? Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à la mienne et qui me fait tant souffrir. L'Éternel me l'a infligé au jour de sa colère ardente. Il a lié le joug que composent mes crimes, c'est sa main qui les a noués. Il pèse sur mon cou, il a sapé ma force. Versets 12 à 14. Une des meilleures façons de saboter une bonne conversation entre gens bien pensants est de l'orienter vers la colère ardente de l'Éternel ou le jugement de Dieu. On vous recevra comme un chien dans un jeu de quilles. Les personnes religieuses mentionnent assez volontiers l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa puissance. Ils iront même jusqu'à accepter le récit des évangiles, la naissance miraculeuse de l'enfant Jésus, et pourquoi pas son origine divine. Au nom du Christ, ils prêcheront la paix dans le monde. Mais ce message à l'eau de rose n'est pas ce que Dieu veut communiquer aux hommes. La raison de la chute de la ville sainte et de l'exil des habitants de Juda est le mélange détonnant, pour ainsi dire, que forment le péché des hommes et la justice de Dieu. Jérémie le précise bien quand la ville de Jérusalem personnifiée dit « L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses commandements. » Verset 18. En effet, Dieu agit avec droiture dans tout ce qu'il fait, et ses jugements sont justes. Bien que cela lui ait causé une grande souffrance, Dieu devait détruire la ville sainte et déporter sa population. Les messages de Jérémie ont toujours été aigres doux. Il annonce, d'une part, que Jérusalem est grandement coupable et la culpabilité du peuple est énorme, mais d'autre part, il dit aussi que l'Éternel aime son peuple d'un amour éternel. Concernant la colère de Dieu, quelqu'un a fait la remarque suivante. La colère de Dieu est nécessaire dans l'intérêt de l'univers. Les prisons existent pour le bien de ceux qui sont libres. Un État qui ne sait pas punir le crime va à la catastrophe. Et un Dieu qui tolère le mal n'est pas bon. Si je rejette la doctrine de la colère de Dieu, je deviens angoissé dans cet univers. Mais montre-moi que son trône est bien établi. occupé par quelqu'un au cœur tendre, qui est motivé par son grand amour, alors j'aurai la certitude qu'il ne tolérera pas ce qui est mauvais, ce qui nuit, pourri, ravage, perverti et maudit, mais l'anéantira avec tout son cortège de misère en faveur de ce qui est élevé, noble et pur. Fin de citation. Contrairement aux élucubrations des scientifiques, l'univers a été créé par un Dieu tout-puissant qui aime ses créatures et qui veut les tirer du mal dans lequel elles se complaisent. Son amour est aussi pour ceux qui lui tournent le dos, mais s'ils ne se repentent pas, il les jugera avec la plus grande sévérité parce qu'il est trois fois saint et parfaitement et absolument juste dans tout ce qu'il fait. L'univers entier et tout ce qu'il contient et Satan lui-même devront un jour reconnaître la justice de Dieu qui ne peut pas laisser impuni le mal et le péché sous quelque forme que ce soit. Quand ceux qui sont devenus ses enfants désobéissent à Dieu, il doit les corriger même s'il le fait à contre-cœur. Jérémie nous révèle les sentiments de l'Éternel. Quand il pleure, Dieu pleure. Quand il est triste, Dieu l'est aussi. Quand dans ma vie je ne comprends pas ce qui m'arrive, il est utile de me rappeler que le Seigneur de toute la terre est juste dans toutes ses actions. Je ne sais pas pourquoi des malheurs frappent des gens bien alors que les malfrats semblent immunisés contre les tragédies. Mais je sais que Dieu est juste. Jérusalem personnifiée est contrite, elle avoue son péché et dit « L'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ses commandements ». N'êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez ? Jérémie s'est lamenté et a pleuré, mais apparemment il était le seul à le faire. Tous les rescapés avaient pris la poudre d'escampette, cherchant d'abord à sauver leur peau. Il est vrai que dans un psaume, les exilés disent « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion ». Cependant, ces larmes, j'allais dire de crocodile, ne sont pas celles de la repentance, mais bien plutôt le regret du malfaiteur qui est pris en flagrant délit. Et plus loin dans ce même psaume, on voit que ces pleurs donnent libre cours à la frustration de ceux qui voudraient se venger mais ne le peuvent pas. Jérémie, lui, était libre. Il n'avait pas été déporté, mais il pleurait au milieu des décombres de Jérusalem, et ses larmes accompagnaient la fumée de la ville incendiée qui montait au ciel. Jérémie savait très bien que c'était la rébellion de son peuple qui avait provoqué sa chute, ce qui me conduit à me demander quelle est ma position face à mon péché et à la colère de Dieu à mon égard. Cela me concerne-t-il? Ce n'est peut-être pas un sujet de conversation courante entre personnes de bonne famille, j'en conviens, et pourtant c'est mon attitude qui décidera où je passerai l'éternité. Combien de gens connaissent la vraie raison pour laquelle Jésus est mort? Alors qu'il était cloué sur la croix, il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psalmiste répond à cette question quand il dit « Cependant, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. » C'est-à-dire, tu agis ainsi parce que tu es le Saint. La mort de Jésus ne fut pas un malencontreux incident, un accident de parcours, où la faute n'a pas de chance. S'il fut crucifié, c'est à cause de mon péché et du vôtre et parce que nous sommes condamnés à la mort éternelle. Où que vous soyez, il est probable que de temps en temps, vous voyez un crucifix ou que vous passez devant une croix, qu'elle soit sur une église ou à la croisée de chemin. Est-ce que cette croix vous concerne? Jésus a souffert comme personne d'autre parce qu'il portait sur lui les péchés du monde depuis son commencement jusqu'à sa fin. Ça fait beaucoup de péchés. Pendant un certain laps de temps, Dieu le Père se détourna de Dieu le Fils et la Trinité fut fracturée. Un événement tout à fait incompréhensible. Jésus fut laissé pour compte afin que Dieu n'ait pas à nous abandonner, vous et moi. Le péché, voyez-vous, est très grave, qu'il soit véniel, capital, mortel ou autre chose, parce que c'est un acte de rébellion contre l'Éternel et donc un crime de lèse-majesté. Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le vrai péché du monde, c'est qu'il ne croit pas en Jésus. Voyez-vous, Dieu a une solution pour le criminel, le voleur, le menteur et pour le pire des hommes. Mais il est sans remède pour celui qui tourne le dos à son Fils Jésus-Christ. Ce péché appartient à une catégorie qui est impardonnable. Il est rare que quelqu'un décide, après mûre réflexion, de refuser le salut en Jésus-Christ. Généralement, les gens le rejettent non par une action décisive, mais par une sorte d'omission. Ils refusent de penser à leur péché, au jugement qui est pourtant inévitable, et essayent d'oublier leurs conditions spirituelles en se divertissant par le travail, le sport, les plaisirs ou en amassant des richesses. Les Israélites avaient atteint un point de non-retour où l'Éternel a dit à Jérémie « Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierais pas d'eux. » Les habitants de Jérusalem avaient rejeté Dieu et la plupart des gens font de même. Assurez-vous que votre péché ne soit pas celui qui fait partie de la catégorie qui est impardonnable.